Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Rooted, dont on va parler rap US encore avec vous pendant une heure. Je suis toujours accompagné de mes deux camarades. Momo, comment ça va?
Mais ça va hyper bien, au calmito pépito, comme le disent les jeunes, je crois, aujourd'hui.
Et de Joachim, Jojo, toujours avec moi.
Ouais, la grande, grande forme ce soir.
Fidèle au poste, jusqu'à la 9e donc ce soir. On va parler de la drill, on va aller à Chicago après deux émissions. Nous étions sous le soleil de LA et de la Californie. Si vous voulez réécouter justement les anciennes émissions, n'hésitez pas. Les podcasts sont toujours disponibles sur les plateformes de streaming et ou sinon un rendez-vous sur notre page Facebook Deeply Rooted. L'émission, on va commencer avec le sujet tranquillement. On va s'écouter un premier son comme d'habitude pour se mettre dans l'ambiance. Ça va être Fredo Santana avec Rob My Plug. Préparez-vous parce que ce soir, on va se déhancher. Non, pas se déhancher. On va secouer la tête plutôt.
Ah, ça va se briser un peu la nuque.
Allez, on s'écoute ça et on revient juste après. De retour après le son de Fredo Santana, Rob My Plug. Donc, je vous avais annoncé, on va aller à Chicago, troisième ville des États-Unis, la Windy City, comme on la surnomme. Et donc, qui a une scène particulière. Enfin, plutôt, on va revenir un petit peu justement sur l'éclosion de cette scène particulière, parce qu'avant, on va dire qu'au niveau spécificité, elle s'était pas démarquée, elle avait pas réussi à démarquer un style bien particulier. Non, Jojo, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, il y avait quand même des artistes qui sortaient du lot, mais c'est vrai que c'était pas, on pouvait pas parler vraiment de courant. Enfin, il y a eu quelques petits trucs, mais c'était pas majeur comme là. C'est vrai, ça a émergé comme jamais. On les avait vus sur le devant de la scène comme ça, quoi.
D'accord. On va faire un petit retour peut-être justement sur la ville en elle-même et notamment l'un des facteurs principaux qui va faire un peu la musique de cette ville, c'est la criminalité.
Bah c'est la ville d'Al Capone, quoi. Je crois qu'il y a un passif qui est assez... Enfin, qui parle de lui-même, quoi, ou de monde déjà toutes ces histoires de prohibition d'alcool, etc. Et ouais, c'est une ville ultra violente, il y a beaucoup de meurtres, enfin, de type des week-ends où... Genre, il y a 40 personnes qui se sont fait tirer dessus, je sais plus c'était pour quel week-end, les fêtes des mères. Franchement, c'est pas drôle, mais. Ouais, c'est une ville où il y a énormément de meurtres, énormément de gangs qui se partagent la ville.
Ouais, je sais plus combien, mais il y avait. Enfin, l'appartenance aux gangs, le nombre de gangs, la rivalité entre les quartiers est particulièrement importante là-bas.
Ouais. Il y a les Black Disciples, c'est même un des plus gros gangs aux États-Unis de toute façon, donc ils sont présents un peu partout, et notamment à Chicago.
Et donc on va voir que ça va influencer donc sur la drill dont on va vous parler aujourd'hui. Peut-être Jojo, tu peux nous faire un petit retour sur justement, tu disais, les quelques artistes qui ont marqué la scène avant l'arrivée de la drill dans les années 2010-2012, surtout l'explosion. Il y a eu quand même quelques grosses têtes d'affiche.
Ouais, bah en fait, bah, même avant de parler des grosses têtes d'affiche niveau rap, Chicago, il y a quand même une grosse histoire musicale. Il y avait ce qu'on appelait la Chicago Soul dans les années 70. On peut citer quand même Curtis Mayfield, qui est vraiment, enfin moi, en termes d'artiste soul, c'est peut-être vraiment tout en haut, quoi, vraiment de surkiff. C'est aussi la ville de la house dans les années 80. Alors là, je vais pas trop me permettre de rentrer dans le vif du sujet sur la question house, parce que je suis pas forcément surcalé, tu vois, mais je sais que, tu vois, dans les débuts du rap à Chicago, c'était ce qu'on appelait la hip house, donc c'était un peu lié, etc., tu vois. Après, en termes de gros artistes qui sont sortis de Chicago avant la drill, on peut citer notamment Common, qui s'est fait connaître avec un producteur qui s'appelle No ID, et puis un certain Kanye West, qui vient de là-bas aussi, qui est, même si là, tu vois, on est plus dans quelque chose de middle class rap, entre guillemets, où c'est plus, c'est moins le gros ghetto, etc.
Lui, il a peut-être moins représenté sa ville au bout d'un moment. Enfin, il est un peu parti faire d'autres choses. Et on verra qu'après, il est revenu un peu justement quand ça a explosé.
Il a reprofité un peu justement de cette explosion de la drill. Pour, ouais. Il y a un des rappeurs de drill qui s'appelle Jerbo qui avait dit que Kanye West s'est racheté une crédibilité à Chicago grâce à la drill et grâce à notamment Don't Like dont on va parler.
Ouais, on en reparlera tout à l'heure.
Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est quand même lui qui a repropulsé Twista, un des rappeurs de Chicago, une des grosses têtes de là-bas. Les gens ont entendu parler, c'était un des mecs à un moment qui était considéré, qui avait
qui
le flow le plus rapide.
Ouais, c'est ça.
Il rappait ultra rapidement et c'est lui qui l'a propulsé. Il a travaillé avec Common, il a travaillé avec des gens de Chicago quand même, et notamment No ID, le producteur. Après, c'est vrai que comme disait Jojo, le rap middle class, ce terme en gros, ça veut dire que c'est pas du rap de bourgeois, mais c'est pas du rap de cité, c'est un peu du rap de classe moyenne, tu vois, traduit littéralement. Et c'était pas trop non plus dans le genre de ce rap là. de représenter ta ville, toi, de dire ouais, je suis de Chicago, ouais, je voilà, suis à fond là-dedans.
Et donc Common, Kanye, Twista, si vous voulez aller écouter un peu les mecs qui ont fait la base, les piliers de la scène
Common
de Chicago.
Common est vraiment une discographie vraiment magnifique, je conseille tous d'y aller, quoi.
Et après, donc on arrive à notre sujet du soir tranquillement, qui est donc, je disais, année 2010-2012, l'arrivée des drillers.
Ouais, bah alors en fait, justement, ce qui est marrant, c'est que finalement, l'influence majeure, elle n'est pas à Chicago, elle est plutôt à Atlanta, donc c'était de la trappe. Et il y a notamment un producteur qui s'appelle Lex Luger et un rappeur qui s'appelle Waka Flocka. Ils ont fait un album ensemble qui s'appelle Flocavelli.
Quelle année ça ?
2010, il me semble. Flocavelli, qui est tout produit par Lex Luger, il me semble, de Waka Flocka. Et là, bah, on est vraiment déjà dans. Enfin, moi, quand j'écoute la drill, je pense que ça, c'est vraiment une influence majeure. Il y a vraiment c'est de la trappe très agressive, quoi. Avec des Waka Flocka, il a aussi une manière de un peu de beugler. C'est hyper. T'as vraiment l'impression d'être dans une fournaise, quoi, quand t'écoutes ça.
Ouais, donc plus sombre peut-être, plus représentatif. Donc là, on parlait tout à l'heure des gangs, etc. Il y a cette dimension-là qui revient, qui est donc vraiment de parler de la réalité de la rue. Là, c'est peut-être, ils vont pas s'inventer une vie forcément, dire c'est moins chaleureux, moins bling bling. C'est vraiment plus sombre. Les rencontres dans la rue, les meurtres.
Non, ouais, enfin c'est carrément ça et ça se ressent dans les clips parce que tu sais, c'est pas des, enfin les premiers voilà, gros tubes, notamment celui qu'on va écouter. Juste après, qui s'appelle Don't Like, comme on le disait, de Chief Keef. C'est genre un clip tourné dans le salon de sa grand-mère, je crois. Mais à chaque fois, c'est ça, c'est des clips tournés en mode un peu à l'arrache, avec des guns dans les mains, des mecs qui sont torse nus en train de faire des signes de gang sans arrêt. C'est beaucoup plus brut, quoi. Mais c'est vrai que même, par contre, sur le style, j'ai remarqué que Waka Flocka, avec ses espèces de dread un peu influencé, même juste sur le style, pas de musique.
Voilà, c'est ça, on viendra aussi sur les gestuels, sur l'influence que ça a pu avoir. Alors, je sais pas, tu vois, tu parlais de la trappe, on va souvent peut-être revenir un peu sur cette différence, mais sur les premiers clips, on voit du coup débarquer ces jeunes, parce qu'il faut le dire aussi, c'est que les mecs qui arrivent, ils ont 16 ans, 18 ans,
ouais,
ils sont torse nu, déchaînés, ils secouent leur dread, etc. Il y avait beaucoup cette imagerie qui a été transmise après. Et aussi, ils viennent beaucoup d'Internet, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ils ont beaucoup diffusé leur son. Enfin, c'est la génération aussi, réseaux sociaux, etc.
À la base, ouais, c'est devenu un phénomène local et sur les réseaux sociaux, quoi. Genre, ils se sont... tu sais, c'était vraiment des jeunes, etc. Donc, tu vois, ils étaient vachement là-dessus. Et ça a pris comme ça localement. Après, il y a eu... Pour que ça prenne... à l'échelle nationale, il y a eu besoin.
Voilà, après ils ont tous, ouais, voilà. Donc en gros, ils ont explosé niveau local, beaucoup Internet, les jeunes. Et après 2012, ils se mettent tous à signer après dans des grosses structures. Ouais. On va y revenir et on va donc commencer peut-être à s'intéresser directement à l'un des gros morceaux du soir.
Ouais, l'artiste un peu le plus représentatif, en tout cas qui représente le plus cette période-là, 2012, quand ils ont tous émergé, c'est Chief Keef, donc avec le morceau Don't Like, avec son compère Lil Riz, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, gros gros morceau.
On s'écoute ça et on revient pour parler de Chief Keef.
Don't Like.
De retour après ce gros gros tube Don't Like de Chief Keef avec Lil Riz, on va revenir un peu sur les caractéristiques sonores de la drill. Jojo, tu peux peut-être me dire deux mots.
Bah comme là vous avez pu avoir un bon exemple avec Don't Like, il y a d'une les flows très saccadés. Chief Keef est un peu pionnier dans ce style là. Des paroles très minimalistes et souvent très hardcore. C'est souvent des grosses phrases scandées, de trucs un peu. Parfois on a pu parler d'incitation à la violence, ce genre de choses, quoi. Il va pas par quatre chemins. Au niveau des prods, là on y reviendra tout à l'heure, quelques petites différences avec la trappe, mais on y reviendra un peu tout à l'heure sur les différences qu'on peut voir ou pas.
Ouais. En tout cas c'est plus sombre, en tout cas, ouais. Enfin, c'est des sons très sombres.
Il y a une ambiance plus sombre en tout cas.
L'utilisation de l'autotune aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est quand même une marque de fabrique de la drill en général.
Ouais, complètement. Ils l'utilisent un peu tous, quasiment tous.
Et donc là, le tube Don't Like, c'est Chief Keef. Est-ce que c'est celui qui fait vraiment péter le truc, on peut dire ?
Bah, c'est ce morceau qui fait vraiment péter le truc, avec un autre aussi, Love Sosa, et les deux un peu.
Ouais, Love Sosa, vous pouvez aller l'écouter aussi, enfin, aller regarder le clip aussi.
Mais Chief Keef est vraiment peut-être le visage qui ressort quand on parle de drill, même si lui, finalement, je vais revenir un peu dessus, mais il n'est pas resté très longtemps dans ce délire-là, mais parce qu'il est un peu, c'est un artiste un peu particulier. Et ben, je vais d'ailleurs revenir tout de suite dessus. Cet artiste qui il a commencé à rapper en fait à 5 ans. Sa mère avait une machine à karaoké. Il s'amusait à rigoler, à faire des trucs avec sa voix, etc. Il a toujours été très créatif, à tenter des trucs. Et comme tu as dit tout à l'heure, le son Don't Lie qui sort, il a 16 ans. Lui, il a arrêté le lycée à 15 ans et puis il avait déjà monté son label Glory Boys. En 2011, il y a la tape Bang qui sort et là, c'est déjà, même s'il n'y a pas encore eu la grosse explosion, tu sens déjà que tout est là quoi, au niveau des caractéristiques sonores, tu vois, les flots saccadés, etc. Enfin, vraiment, il est déjà là-dedans. Ça vraiment. Tu t'immerges dans ce quartier d'Englewood, parce que lui vient du quartier qui s'appelle
Englewood. Voilà, le sud de Chicago.
Voilà, le sud de Chicago.
C'est de là-bas d'où provient la majorité des mecs, des drillers,
c'est,
non?
Ouais. C'est, ça vient surtout du sud, c'est là où c'est le plus chaud. Et Englewood, notamment, il y en a plein. Et donc, dont lui et tout son label, Glory Boys. Et donc, comme on l'a dit, c'est le remix de Don't Like par Kanye West, qui est sorti après sur la compil Good Summer. Voilà, Kanye West, à ce moment-là, c'est lui qui est le boss, quoi. Genre, limite, il a sorti My Dark Twisted Fantasy quelques mois ou quelques années avant. Il est vraiment chaud, quoi. Et là, gros remix avec Pusha T, Jada Kiss, Big Sean. Donc voilà, la notoriété qui explose. Et là, il finit par signer un deal avec Interscope, alors que tous les labels voulaient se l'arracher, Chief Keef. Et voilà, il finit par signer donc ce deal avec Interscope. Et si je peux donner deux disques qui sont vraiment représentatifs de ce qu'est la drill et de ce qu'est Chief Keef dans ces années-là, c'est la tape Back From The Dead, qui est incroyable, et l'album Finally Rich,
ouais.
Qui est là aussi peut-être l'album qui a le plus cartonné pour lui et qui est un peu son projet le plus connu, quoi.
Sachant que lui, il cartonne aussi avec le producteur qui l'accompagne à ce moment-là quand il sort, qui est Young Chop.
Ouais, Young Chop qui
très est jeune aussi.
Lui aussi, lycéen, ouais. Enfin,
il devait avoir pareil 16 ans, un truc comme ça. Et donc, les gros tubes, c'est lui à ce moment-là et il explose totalement.
Ah bah c'est leur producteur, le producteur maison du son de Chief Keef, quoi, et des gens qui l'accompagnent. Savoir que lui, par contre, c'est pas du tout un mec qui est il vit dans le ghetto, mais c'est pas du tout un mec de gang ou quoi que ce soit. Lui, vraiment, il s'est cadenassé un moment chez lui avec, je sais plus si c'était avec Cubase ou Fruity Loops, un des deux. Et littéralement, il s'est crevé à faire du son. Et c'est lui qui est derrière Love So Sad, Don't Like. Donc
lui est influencé aussi justement par la vague trap,
ah bah oui,
par Gucci, Waka Flocka, etc. Ce que tu disais tout à l'heure. Donc influencé par ça, il se met à faire ces beats qui sont légèrement différents et qui donc vont marquer vraiment cette époque-là, et il va exploser avec les quelques figures de la scène.
Ouais, bah, dans son label Glory Boys, on peut citer quand même Fredo Zandana qu'on a mis au tout début.
Ouais.
C'est son cousin. Il y a aussi Taido, alors lui qui n'a pas vraiment eu de carrière, mais c'est aussi son cousin. Blood Money aussi, je crois. Et Lil Reese et SD qui font pas partie de sa famille, mais qui sont aussi. Pour la majorité, il faut dire les choses, c'est pas de très grands rappeurs. Chief Keef est un rappeur assez particulier. C'est pas toujours évident au premier abord. On se dit, mais en fait, c'est quoi son truc? Il est un peu. Il a une manière très bizarre en fait de rapper. C'est très, très minimal, quoi. On a pu lire énormément de critiques, hein, parce qu'il inciterait à la violence. Il a eu des problèmes un peu avec le. Des problèmes avec la loi, quoi.
Sachant qu'à ce moment-là, oui, entre les clips où ils ont vraiment tendance à avoir des armes à feu, ils se provoquent toujours à ce moment-là aussi sur les réseaux sociaux. Ça continue avec la vague de violence dans la ville, donc il y en a. Enfin, au niveau autorité, il y a beaucoup qui pointent du doigt aussi cette musique en disant que bah, ça encourage les meurtres. Parce que la scène, je sais pas si on l'a dit, elle est surnommée là-bas Chirac.
Chirac, ouais, qui est une contraction de Chicago et d'Irak pour dire.
Voilà, pour dire que c'était la guerre là-bas, entre guillemets, quoi.
Bah, donc. Puis même, je crois qu'il faisait des comparaisons de chiffres entre les soldats.
Oui, voilà,
tués,
mais en fait, il disait qu'il y avait plus de morts par arme à feu là-bas qu'en Irak, finalement.
Et plus qu'à New York, à Los Angeles, qui sont quand même des villes plus grandes où les gangs existent aussi, quoi.
Donc, toujours cette histoire de la violence qui traîne. Et après, je sais pas de Chief Keef si lui-même a été concerné, s'il est en prison, etc. Mais il y a quand même des artistes qui sont morts.
Lui, il a été en prison. Il n'est pas accusé de meurtre, hein, mais bon, après, il y a eu des histoires un peu douteuses. Où, voilà, il y a eu des tweets parfois sur
des affrontements.
Un membre du gang rival qui meurt et puis lui il fait un tweet un peu, tu vois.
Maladroit.
Et enfin bon, après voilà, il baigne un peu dedans. Après, on ne sait pas du tout à quel point il est impliqué, mais tu vois, il est quand même dans cet univers-là, quoi.
Oui, c'est pas des enfants de cœur non plus. Et donc, et pour aller un peu plus loin, donc lui, il y a son époque drill. Et après, tu disais, il part un peu sur d'autres choses.
Bah après, c'est là où moi je trouve que, en fait, à la base, moi, pour être tout à fait honnête, quand j'ai entendu ça, je fais OK, ouais, c'est nouvelle vague de rap de Gogol, etc. Même si je trouvais ça cool, mais voilà, j'avais pas plus de... Enfin, j'aimais bien, mais sans plus, quoi. Et c'est quand il a fait ces trucs qu'il a sorti derrière, c'est-à-dire dès 2013, en fait, dès après qu'il a sorti Finally Rich, qui le cimente un peu comme l'album drill par excellence, etc. Derrière, il a fait des trucs, il a pris tout le monde à contre-pied, en fait, parce que il a fait, genre, par exemple, Almighty So. C'est une tape, tu sens qu'il est en roue libre totale, quoi. En fait, il s'est mis à faire ses prods, parce que c'est pas lui qui le faisait à la base. Il était surtout avec Young Chop, et là il s'est mis à toucher un peu aux machines, etc., à tester des trucs. Et en fait, comme c'est un peu son truc, en termes d'artiste, il essaye des trucs. Il essaye plein de trucs, et c'est toujours très intéressant, c'est vachement créatif.
Donc il s'est pas enfermé dans ce style-là, on va dire qu'il est parti sur d'autres délires plus expérimentaux.
Pas du tout, du tout. Bah, j'encourage les gens à aller écouter, même si c'était pas forcément facile au début comme expérience d'écouter Almighty So ou Back From The Dead 2. C'est complet, un ovni complet, quoi, ce disque-là, mais c'est complètement unique aussi.
Ok, on va s'écouter un son, justement, de... Vous voulez rajouter quelque chose sur Chief Keef avant que...
Non, moi, je voulais juste dire R.I.P. Fredo Santana, voilà, parce que... Bah, il est mort, en fait, tout simplement, sauf que lui, il est pas mort par la... Enfin, il est mort d'une autre manière, il est mort d'overdose de lean, la drogue sirop dont on vous avait déjà parlé. Et voilà, pour s'échapper du quotidien ultra scary de là où ils viennent à Englewood, bah le mec il s'est un peu plongé là-dedans et il est mort à 27 ans, quoi.
Voilà, bah on va vous laisser du coup sur Chief Keef Wowa, qui est un morceau qui s'appelle Wowa, qui est dans ses derniers albums en 2017, pour voir à quel point il est parti dans un truc totalement différent. Et on vous retrouve après sur
Et après on s'écoute Lil Durk avec Learn That. On fera un petit pas justement sur Lil Durk, une autre figure de la scène. Et on se retrouve tout de suite, vous êtes toujours sur Deeply Rooted. Vous êtes toujours sur Deeply Rooted, on parle toujours de la drill de Chirac de Chicago. On vient de s'écouter Chief Keef avec Wa et Lil Durk avec Learn That. Et on va s'attaquer justement à Lil Durk et King Louis. C'est Momo qui va nous parler de ces deux énergumènes.
Yes, on va parler principalement de ces deux gars-là, même s'il y a d'autres personnes aussi qui gravitent autour ou à côté à Chicago, qui sont dans la drill et qui sont dans le sillon, quoi. Mais eux, c'est les deux plus connus. Alors, je vais pas faire dans l'ordre d'ancienneté, parce que King Louis, il est arrivé un peu avant, c'est un des précurseurs de la scène, on va en parler après. Mais plutôt de Lil Durk, du coup, parce que vous venez de l'écouter. Et pareil, donc c'est un mec qui a grandi dans le même quartier, à Englewood, et lui, directement baigné dans la violence, savoir que son père, il a pris... Il vient juste de sortir de prison, mais il avait pris 25 ans pour détention d'armes, deal de stup, etc. Donc le mec vit seul avec sa mère, ils sont plusieurs chez lui, genre grave en difficulté de moyens. Donc il commence pas forcément dans les meilleures conditions. Donc il suit un peu tout le monde au final dans le sillon de la drill, il explose avec les autres, sauf que lui...
Pareil, jeune aussi.
Ouais, très jeune, ouais, ils ont tous le même âge, c'est genre 15-17 ans, donc il n'y a personne de majeur à ce moment-là. Mais alors pour le coup, lui il est pas signé chez Glory Boys, le label de Chief Keef, il va être signé chez Def Jam via son propre label qui s'appelle OTF, Only the Family, que la famille, comme je sais pas si ça vous rappelle quelque chose avec PNL tout ça, mais voilà, ce sont des voleurs, non je plaisante, mais ouais. Par contre, le fait qu'il ait signé, qu'il ait fait un peu ses bails de son côté, bah, j'ai l'impression que ça se ressent sur son son, parce que c'est un mec qui utilise... Alors comme on le disait, ils utilisent tous l'autotune, mais lui c'est vraiment genre très poussé dedans, c'est beaucoup plus mélodique. Après ça reste dans les termes, ça reste sombre, ça parle
C'est cru, mais comme tu dis, il y a plus des parties un peu chantonnées, chantées. C'est assez différent quand même de Chief Keef globalement.
Ah oui, je dirais pas qu'ils sont opposés, mais ouais, c'est pas forcément très ressemblant. Et si tu... Par contre pour le coup, je dirais pas que c'est le plus représentatif de la drill, ça soit Lil Durk, tu vois. Donc il fait son petit bout de chemin et il se fait repérer d'ailleurs par French Montana avec le single que vous avez écouté juste avant. Ah non, je vous dis des bêtises, c'était avec Decent What You Want, pas avec Learn That. Et donc il se fait repérer par French Montana, il sort une mixtape avec lui sur son label Cokeboy. On reste quand même on reste dans le délire drogue et consort. N'oublie pas que French Montana est sûrement le meilleur rappeur des États-Unis d'ailleurs.
French Montana, si tu peux dire deux mots parce que les gens ne connaissent pas forcément.
French Montana, si vous voulez avoir genre le perso, en gros c'est un rappeur qui vient du Maroc, dont la famille a bougé à New York. Je crois que c'est Harlem ou dans le Bronx. Et il a commencé un peu à fricoter avec les mecs de Terror Squad, je crois. Ouais, bon, avec des mecs de Harlem, ouais. Tu veux nous parler de Max B en speed, qu'on fasse des digressions.
Non, juste un petit shout-out, un petit SO à Max B, parce que j'aime bien tout ce qui est wavy, tout ça.
Ah, c'est aussi wavy que monsieur Fredo Santana. Et ouais, donc voilà, French Montana, c'est un mec qui... un Marocain qui est allé à New York, dans le Bronx, et qui a pété avec le temps, voilà. Il est un peu...
pas spécialement le meilleur des rappeurs.
Ah non, pas du tout, pour le coup.
En tout cas, disons qu'il a roulé sa bosse là-bas.
Totalement ironique, quoi. Mais en gros, la leader, pour revenir à lui plus sérieusement, bah lui, là, il continue à faire son petit bout de chemin. Je sais qu'il a sorti une tape en fin d'année l'année dernière et qu'il y a des projets qui arrivent cette année. Et lui, c'est plus varié, plus mainstream ce qu'il fait. Donc lui, je pense qu'il va avoir une ascension beaucoup plus...
Bon, après, ça reste limité. Disons qu'il a quand même perdu...
Je trouve qu'il a un peu perdu son style, enfin c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais j'ai écouté justement une de ses tapes, il en a sorti deux projets je crois en 2018, et j'en ai écouté un, et c'est très
mainstreamisé quoi.
Ouais, c'est très mainstreamisé, il n'y a plus vraiment de... Tu vois ce que j'aimais bien sur les projets du début, donc, notamment comme le son Learn That, t'as vraiment le côté autotune un peu mélodieux, mais quand même ça reste très dur et très...
Ouais, c'était ça le contraste, l'assemblage des deux. Ouais.
Et ouais. Mais en tout cas c'est quand même un mec qui monte et qui a un futur plus ou moins stable qui s'annonce pour lui. Et du coup on va parler de King Louis aussi. King Louis, comme je vous le disais, alors c'est pas un ancien de la scène, mais c'est un des précurseurs de la drill.
Bah, c'est un des seuls qui est majeur en tout cas.
Oui, voilà. À ce moment là c'est vrai que c'est le seul qui doit être majeur. Et lui il commence à rapper, alors quand il commence à rapper il est pas majeur parce qu'il commence à rapper au lycée. Et ouais, il distribue ses CD dans les soirées, à la main, dans la rue. C'est aussi un mec de quartier, hein, faut pas... C'est pas un middle class rappeur comme Kanye West, mais voilà, il commence à se faire connaître un peu localement. Malheureusement, il lui arrive un truc un peu grave, mais qui lui coûtera pas la vie. Il a un accident de voiture où il se casse les deux jambes, donc ça ralentit nettement sa progression, en fait. Et c'est un peu dommage, parce que c'était un des nouveaux joyaux bruts de la ville. Alors, ça met pas un terme à sa carrière, il a quand même été très productif... Passé ce moment-là, et je crois que c'est un des seuls mecs dans les nouvelles vagues qui donne pas le même nom à ses mixtapes déclinés en 14 exemplaires.
Ouais, il y a quand même Drillumminati 1, 2 et 3, et Tony 1 et 2.
Oui, bon. Mais je veux dire, il essaie quand même de se décarcasser pour trouver des noms de tapes sympas. Et pour dire que quand même le mec est talentueux, je veux dire, même s'il était un peu plus dans l'ombre que les autres, il s'est retrouvé à taffer avec Kanye West. Donc, comme on disait, qui est lui-même de Chicago. Et il lui permet de travailler deux fois avec lui sur je crois que c'est sur Yeezus, où il lui fait faire un refrain sur Send It Up. Et il est carrément co-writer, enfin co-écrivain d'une chanson. Je sais pas s'il est ghostwriter ou co-écrivain de la chanson New Slaves sur le même album. Donc c'est plutôt pas mal.
Ouais, Kanye West l'avait avant ça, je crois que sur justement son couplet sur Don't Like, si je dis pas de bêtises, hein, il l'avait shout out, tu vois, genre, il avait mis une petite référence à King Louis sur ce son là, tu vois.
Alors même moi, ouais, je me permets de préciser, shout out c'est en gros c'est faire une dédicace, ils le disent beaucoup là-bas aux États-Unis, mais ouais, en gros c'est dédicacer quelqu'un.
On peut dire SO maintenant.
Grâce à Frisk Orléans, allez tous écouter Frisk Orléans d'ailleurs, mais voilà, ça c'est autre chose. Et pour finir sur King Louis, du coup c'est un mec qui a collaboré avec beaucoup de gens de la scène, avec Twista, avec Chief Keef, avec Fredo Santana, avec Kanye, avec Lil Bibi, qui est un autre rappeur de la scène.
King Louis maintenant, c'est pas King L.
C'est devenu King L maintenant, ça, hein. ça a été raccourci, on va dire.
Donc
ça.
Si vous recherchez ça, si vous avez peut-être un album...
Drillumminati 1 et bien, Tony 1 et bien.
Ouais, ok.
Il y en a plusieurs, mais Drillumminati 1, Tony 1, est déjà bien.
Okay. Et après, ouais, comme je vous le disais un peu plus tôt, il y a une ribambelle d'artistes qui sont dans le sillon. Notamment des mecs un peu plus importants que juste faire partie d'une ribambelle d'artistes. Il y a G, Herbo et Lil Bibi. Lil Bibi que je kiffe grave, il y a vraiment un gros côté street, grosse voix sur des grosses prods. Tu t'ambiances facilement dessus. Là, je sais qu'il y a Zimoni aussi, c'est un autre mec qui... Je sais pas s'il est trop actif, enfin s'il est encore actif.
Si, si, il a sorti un album en dernier, Chirac Mogul, voilà. qui est pas mal d'ailleurs, je l'ai écouté assez brièvement, donc je peux pas trop m'étendre dessus, mais c'était une bonne expérience. Après, il y a des mecs un peu perdus, tu vois, comme YP. J'avais adoré, il avait sorti un projet en 2012 ou 13 qui s'appelait Wide Awake, et j'avais adoré ce projet, mais depuis, le mec est disparu, quoi, je sais pas du tout ce qu'il est devenu. T'as aussi pas mal de femmes qui.
Ouais, parce que c'est toujours intéressant de regarder que, bon, malgré encore une fois que les paroles ce soit pas. Enfin, c'est assez violent, souvent assez machiste aussi, mais du coup, là, encore une fois, quelques femmes. Moi, j'avais vu Sacha Gohard notamment, et toi, t'avais vu.
Ouais, il y a Katie Godbenz qui, je crois qu'elle est signée sur le label de King Louis, qui est Lawless. Il me semble que c'est celle-là.
Mais qui font vraiment de la drill totalement, quoi, de leur secteur.
Ouais, non, mais c'est tout à fait ça. Mais c'est à fond, elles sont dans l'effervescence de 2012-2014, elles sont totalement dans la drill, quoi. Et ouais, je me permets juste de refaire une précision, parce que, juste pour vous dire que le mot drill, en fait, c'est aussi une expression à Chicago. C'est au-delà d'un style de musique, c'est genre, ça veut dire, quoi, ça défonce, ça tue, quoi.
Et bah, ça a pas mal évolué, enfin, c'est vrai que c'est intéressant à chaque fois quand on parle du mouvement AFI, des choses comme ça, et de revenir sur l'étymologie du mot. Drill, ouais, à la base, mais il me semble que à la base c'était destiné quand tu tirais plutôt sur des gens, enfin c'était issu pareil du milieu gangster, etc. Et après c'est rentré dans le langage courant pour dire quelque chose qui tue, comme tu dis. Après c'est toujours un peu difficile de revenir à l'origine même du terme, quoi. Ils vont te dire bah, c'est tel rappeur qui l'a dit à tel moment, etc.
Ouais, et puis il y a aussi un très gros, un grand champ lexical d'argot autour de la ville qui a ses propres mots. Ils ont plein d'expressions, ouais. Chicago. Donc, on va pas revenir là-dessus, mais ouais, si ça vous intéresse, vous allez sur Urban Dictionary. C'est un site anglais qui vous référence un peu les expressions un peu de la rue, de la street ou même dans le rap. Si
ouais, c'est assez intéressant
pas.
À chaque fois d'aller.
Dès qu'il y a un nouveau mot que vous comprenez pas trop, en général, tombez dessus. Il y a plusieurs explications, plusieurs propositions de définition.
Ouais, voilà.
Et du coup, bah, pour clore cette partie-là sur l'autre partie de la drill, on va s'écouter King Louis avec le titre Val Venice et on se retrouve
pour parler un peu de l'héritage de cette scène-là.
Yes, tout à fait.
Allez, à tout de suite. Allez. On est toujours dans Deeply Rooted pour parler de la drill de Chicago. On va aborder notre dernière partie pour parler des influences et de l'héritage de cette scène. Donc, je le rappelle, a émergé au niveau des années
2011-2012.
Ouais, voilà, ça explose.
2012
vraiment.
Surtout, ça explose.
Vraiment 2012. Du coup, qu'est-ce qu'il est advenu ? Qu'est-il devenu de ces personnes ? On a évoqué un peu déjà l'actualité de Lil Durk, Chief Keef, etc. À dire qu'il y en a qui ont fait d'autres choses, d'autres qui sont restés dedans. Globalement, la scène de Chicago, ça ressemble à quoi maintenant ?
La scène de Chicago, il y a aussi d'autres choses qui se passent qu'on n'a pas trop évoquées. La drill, moi je considère que c'est plus ou moins fini. Enfin, c'est-à-dire que déjà pour moi c'est un peu un sous-genre de trap, enfin sous-genre pas péjoratif, hein, mais c'est
ouais,
un genre de trap, quoi, en fait, qui vient de Chicago et qui est marqué par le style de producteur comme Young Chop ou Sisik, tout comme ça, quoi. Et puis aujourd'hui, quand tu vois les artistes de drill qui continuent et qui font encore parfois de la très bonne musique, hein, je pense à Jirbo qui lui il est produit par Southside, je crois, qui est un producteur d'Atlanta. Lil Bibi, c'est pareil, quand tu regardes un de ses derniers albums, c'est produit par des mecs d'Atlanta.
Donc Atlanta, la scène
c'est produit par Atlanta. Ouais, donc Atlanta.
Donc en gros, ils sont retournés un peu à
la source.
Ouais, voilà.
Et donc, oui, enfin, il y a plus vraiment de. La drill, moi, je représente ça comme un phénomène vraiment 2012-2014. Il y a plein d'artistes qui sont arrivés, t'as l'impression que Chicago a venu rouler sur le rap US. Et il y a eu ce style vraiment marqué. Et aujourd'hui, bah, ils sont revenus à des trucs plus traditionnel entre guillemets en termes de
trap.
D'accord,
mais du coup comment on va, c'est un peu la question, on a tourné autour, mais quelle est la différence du coup entre trap et drill pour quelqu'un qui écouterait? On va revenir un peu sur les influences, mais
il y a plusieurs choses qui font que c'est différent. Après, ça peut paraître très léger à l'oreille et tu peux te dire ouais c'est quasiment semblable. Moi je pense que la drill c'est l'appropriation des rappeurs de Chicago, en tout cas d'Englewood, de ce coin là ils se sont appropriés la trap pour pouvoir s'exprimer et sortir des projets à ce moment-là. Et après, entre guillemets, ils sont revenus dans le rang, quoi. Les différences techniques.
Musicalement, des BPM un peu plus lents, ouais. Ce que j'ai cru comprendre.
C'est plus lent au niveau des BPM, mais légèrement.
Plus sombre.
C'est plus sombre au niveau des paroles et même de l'ambiance, tu vois. Genre, ça se limite, ça pourrait être proche de ce qu'on a vu à l'époque de la 3-6 Mafia, tu vois, ça reste le côté sombre du rap sudiste, alors que Chicago c'est dans le nord, quoi. Et ouais, c'est moins festif, tu vois. Tu peux pas trop. Enfin, tu peux t'enjailler sur de
Sachant que la trap d'Atlanta, c'est vrai que c'est destiné à être écouté dans les strip clubs.
Voilà, c'est
donc
ça.
C'est vrai qu'il y a ce côté-là qui s'entend, hein, dans le son d'Atlanta. Et à Chicago, tu sens que là, on est vraiment dans le ghetto, quoi.
Ouais,
c'est
pur
et dur, quoi.
Dans l'usage du morceau, dans les gestuels, etc. Justement, les mouvements qu'on voit revenir, les gimmicks, tous les gestes, etc. Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que.
Non, moi je pense que ça c'est plus lié au côté. Alors ça tu l'as partout dans le rap, mais ça c'est plus lié au côté gang qu'il y a à Chicago. Tu vois, dans la trap, t'as des mecs qui vont faire des signes de gang comme Young Jeezy, comme d'autres vont jamais en faire. C'est pas trop leur truc parce que c'est pas des membres de gang. Mais alors pour le coup, ouais, les signes de gang, ce genre de choses, les postures devant le bloc, les flingues, c'est très drill pour le coup. C'est très rap, mais aussi c'est très drill aussi, quoi.
Du coup, et qu'est-ce que pour vous sera laissé comme influence déjà aux États-Unis? On va venir peut-être après à la France et à d'autres pays, mais aux États-Unis, est-ce qu'on peut dire que ça a marqué d'une empreinte
Bah après, c'est pas parce que c'est un genre de trap que ça a pas déjà eu une influence, parce qu'un mec comme Chief Keef, il a énormément d'influence. Lil Durk aussi, hein, dans son utilisation de l'autotune, il a eu beaucoup d'influence. Après, il y a peut-être au niveau des paroles et des thèmes, quelque chose de, tu vois, qui a aussi un peu morbide, suicidaire, alors, suicidaire peut-être pas, mais bon, tu vois, c'est...
Un rapport avec la mort plus direct.
Voilà.
Dépressif, quoi.
Ça s'est retrouvé dans tout ce qui est un peu emo rap aujourd'hui, des mecs comme Lil Peep, tu vois, enfin, Lil Peep qui est mort aussi, hein, on parlait beaucoup de gens morts aujourd'hui. Voilà, parce qu'il est mort d'overdose, hein, enfin, il y a aussi beaucoup de drogue dans les paroles des musiciens de drill. Donc il y a tout ça.
Ok, donc le côté sombre de ce côté-là, et du coup pour en revenir un peu en France, on a quelques artistes. Bah, on pense du coup à la vague. Alors est-ce que c'est la vague trap ou est-ce que c'est la vague drill qui arrive en France?
Et c'est le plus gros problème. Enfin, c'est pas un problème en soi, mais c'est le plus gros. En fait, il y a une partie. En gros, c'est un peu pas des incultes, tu vois. C'est un peu méchant de dire ça, mais c'est que eux, ils disaient qu'ils faisaient de la trap alors qu'ils étaient clairement dans une vague drill. Et d'ailleurs, c'était Mac Taylor qui avait soulevé ça dans une interview pour Appelit, je crois. Pour le coup, lui, c'est quand même un rappeur qui est grave informé, qui suit grave les tendances. Il avait dit, en fait, les mecs pensent faire de la trap alors qu'ils sont en train de faire de la drill. Ils appellent la drill la trap alors que... Bon, déjà, preuve que ça reste quand même très proche. Après, en France, des mecs qui font de la drill en particulier, il n'y en a pas un qui fait que de la drill. Par contre, un mec comme Gradure, pour le coup, lui, est très influencé par ce côté-là. Je pense qu'il a eu... Mais il est arrivé un peu après, tu vois.
Il est arrivé un peu après, par exemple, la vague de Kaaris notamment.
Ouais, il y a eu Kaaris quand même quand il est sorti. Il y avait un peu les flows saccadés, les trucs un peu.
C'était ça, c'était très sombre.
Il y avait beaucoup de rapprochements à ce moment-là qu'il faisait avec Chief Keef, Lil Reese, etc. Quoi.
C'est plus sombre que club en plus, pareil. Lui, quand il arrive, c'est vraiment très street. Donc, influence de la scène de Chicago, j'imagine.
Bah oui, il y en a eu, ça je dis pas du tout, mais pour moi, Kaaris, il est entre les deux, quoi, tu vois. Pour moi, Chicago, pour. Gradure, pardon, c'est plus le cas aussi bien au niveau des instrus que dans les termes abordés. Lui-même fait des références à Englewood, à Chicago. Il est parti tourner un clip là-bas. Je pourrais dire un autre mec aussi que je kiffe, mais qui est encore tout jeune, c'est Freeze Corleone, mais c'est pas forcément dans le... Alors, lui, c'est pas tant dans le côté violence, c'est plutôt dans le côté tout ce qui est référence à la line. Et il fait énormément de références à Fredo Santana, par exemple. Voilà, t'as au moins une influence aussi bien dans la musique que dans l'imaginaire, donc.
Et après, au côté violence, donc là tu parlais, on peut revenir peut-être au phénomène un peu UK drill, ce qu'on a appelé, qui est arrivé à Londres. Et là, il faut en dire deux mots parce que, en fait, donc du coup, cette musique arrive, musique qui mêle du coup la drill de Chicago et les musiques et le style de rap grime des anglais. Donc un mélange de ces deux-là, et en fait ça s'est accompagné aussi de tout un tas de polémiques, notamment à Londres, parce que pareil, hausse des violences, notamment armes blanches, les attaques, etc., qui augmentent, et du coup les autorités qui clairement ont pointé du doigt la musique pour dire, bah regardez, c'est pareil, ils se provoquent sur les réseaux sociaux, il y a toujours ce délire un peu gang, etc., et en même temps très violent, incitation à la violence, on appelle à régler nos comptes. Donc bah, peut-être dire deux mots sur cette musique et ce phénomène. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, ça existe encore.
Bah ça existe encore. Alors faut savoir que ils ont demandé, je sais pas si c'est le gouvernement anglais qui a demandé à ce que les clips soient censurés. Enfin, en tout cas, les clips ont été censurés, sont retrouvés sur Pornhub, hein, pour la petite anecdote un peu lol. Mais ouais, il y a eu clairement un impact. Après, il y a des gangs, il y avait déjà des gangs à Londres avant la drill. Et par contre, ça n'a pas été avec des flingues, mais il y a eu beaucoup d'attaques au couteau, des meurtres comme ça, des mecs qui réglaient leur compte via Twitter, comme c'était le cas déjà à Chicago. Et alors pour le coup, le son de la drill UK, c'est vraiment ça. On vous invite à écouter. Il y a un groupe qui s'appelle 67. C'est le parfait mélange entre la grime, qui est déjà le rap anglais, on va dire, et la drill de Chicago, quoi.
Ouais, un bon mélange. Donc n'hésitez pas à taper UK drill ou à aller écouter le groupe dont vous parlez, Momo. On pourra pas vous passer un son forcément ce soir parce qu'il fallait faire un choix, et on terminera sur Gradure avec Terrassé.
Chégué.
Pour faire un petit clin d'œil à notre scène française. On espère qu'on a fait le tour pour vous. On va vous compléter encore une fois sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook Deeply Rooted de l'émission, pour vous renvoyer des éléments sur la drill. N'hésitez pas à l'écouter, tous les artistes qu'on a évoqués aujourd'hui. Vous pouvez toujours écouter en podcast, pour rappel, nos anciennes émissions. C'est déjà la 9e. D'ailleurs, on vous prépare un petit quelque chose pour la 10e. On va vous essayer de faire un événement autour de ça. On vous en dira plus dans les prochaines semaines. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter.
REP Fredo Santana.
Voilà, et Jojo, peut-être un message.
Très content d'avoir pu parler de Chief Keef, même si j'aurais pu faire toute l'émission sur lui. C'est déjà pas mal.
Vraiment, allez voir ces gars-là, allez voir les clips, parce que ça vaut le coup. On vous dit au mois prochain, donc pour la spéciale, la 10e. On vous souhaite une bonne soirée. Et
on vous aime. Hein. On vous aime, faut pas oublier de vous le dire. On vous aime beaucoup.
Allez, à toutes dans Deeply Rooted, on se quitte avec Gradure, Terrassé.